Patav Saria Bedorot. Lui, il a essayé de d'interpréter en quelque sorte notre pasouk, c'est-à-dire Va'aretz Hayta Tohu Vabohu, etc., tout le pasouk, de la manière suivante. Je vais l'interpréter en disant que ce verset parle de la suite des générations. Et donc, j'interprète comme ça. Arès haïta tohu vavohu. Arès haïta tohu vavohu, c'est Adam Arishon. Ça fait référence à Adam Arishon, Shaya, Loklum. Adam Arishon, qui était quelque chose de, il était rien. Un à quoi bon, en quelque sorte, rien du tout. Ça, c'était sur le Tohu. Vous vous souvenez, on avait dit en passant, en tout cas, que ce mot de Tohu, il veut dire, avec ce mot-là, on va parler d'une forme d'errance, c'est-à-dire d'une forme dans laquelle on essaye de dire quelque chose. Par exemple, vous avez un certain paysage et vous avez, disons, vous avez un arbre avec du vert, toutes sortes de vert. Et vous essayez de communiquer à quelqu'un la nuance de vert de cet arbre. Alors vous allez essayer de le comparer, je sais pas, c'est du vert bouteille ou c'est du vert comme si ou du vert poivron ou du vert etc. À chaque fois, dès que vous avez dit la chose, non, c'est pas vraiment ça. Donc c'est une espèce d'errance, c'est-à-dire on va en avance, on arrête, on comme quelqu'un qui avance dans une forêt et qui est complètement perdu, il commence à aller dans une des directions, ouais, c'est vraiment pas ça, il revient en arrière, etc. C'est l'errance. Et donc, ce qu'on veut dire ici, avec sa comparaison, pour lui, Adam Arishon, c'est quelqu'un qui, il était rien au sens de, il est, d'une certaine façon, justement, il n'y a pas de constance, il essaie un bout, puis après il revient en arrière, etc. Alors, d'où est-ce qu'on sait cela? Ça veut dire, où est-ce qu'on sait qu'Adam Arishon était comme ça? Où est-ce qu'on voit dans le texte de la Torah qu'Adam Arishon ne savait pas où il allait, quoi? Quelque part, c'est quelqu'un qui représentait, il valait rien, quoi, d'une certaine manière. Alors le Midrash dit, simplement, il était comme ça, mais on s'appuie sur rien du tout pour le dire. C'est Rav Yehuda Bar Simon qui pense que c'est comme ça. Vavohu, donc Tohu, Vavohu, c'est Caïn. Alors maintenant, pourquoi c'est Caïn? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est Caïn? Alors, Bohu, c'est effectivement quelque chose de, une forme de confusion. C'est Bikesh l'Arzir et Taolam, le Tohu Vavohu. Ben, du coup, le Caïn, il a essayé de ramener le monde au Tohu Vavohu, c'est-à-dire revenir en arrière avant la création du monde, en quelque sorte. Avant que la Terre soit structurée du tout, rien de revenir. Rocher, Zedoro, Shelenosh. Hashem, Vaya, Mershach, Maaseyem, Vayomru, Mi, etc. Donc, les ténèbres, c'est la génération d'Enoch, puisque eux, ils sont des gens auxquels on peut bien dire, parce qu'ils s'appuyaient sur un verset du Navi Yeshayahu, « Vayav et Mershach Maaseyem, Vayomru, Mira, qui nous voit. » S'imaginaient toujours qu'Hachem ne les voit pas. Donc, Hachem ne sait pas ce que nous faisons. Donc, en fait, il s'imaginait qu'Hachem était dans les ténèbres, en fait. Alors, c'est une espèce de projection. Eux étaient dans les ténèbres telles qu'ils pensaient qu'Hachem était dans les ténèbres et qu'il ne saillait nous. Les ténèbres ici comme une situation dans laquelle on voit rien. Donc, ils pensaient qu'ils pouvaient pratiquer l'idolâtrie et qu'Hachem n'en verrait rien. Il ne verrait pas. Il savait bien que si Hachem prenait conscience de... Enfin, a priori, il se disait, si Hachem voit qu'on pratique l'idolâtrie, ça va aller mal pour nous. Mais il pensait, on peut se débrouiller pour qu'Hachem ne le sache pas. Donc j'ai une espèce de projection. Ils sont eux dans les ténèbres, ils s'imaginent que Hachem est dans les ténèbres. Alpenei Tohom, donc il y avait ce... C'est la suite du verset, sur, à la surface de l'abîme, Zedor Amaboul, correspond à la génération du déluge. Shenema, Bayomaze, Nivkeu, Kolmayanot, Tehom. C'est, il est écrit quand la Torah, elle décrit le déluge, ce jour-là, toutes les sources dans les abîmes, se sont ouvertes et elles ont toutes inondé. Le roi Elohim rachefet al pnei ha'mayim, que l'esprit d'Elohim flottait au-dessus de l'eau. Al shem, ça correspond al shem chez Yahver Elohim ruach al haaretz. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ad Matai Yeh HaOlam Itnaeg Ba'Afela. Hachem aurait dit, il se serait dit, jusqu'à quand est-ce que le monde se conduirait dans les ténèbres? Tavo Ha'ora, que vienne la lumière. Yomer Elohim Yehi Or. Donc, il faut que la lumière vienne. Donc, si vous voulez, cette espèce de ce roi Elohim qui aimera après, c'est comme si Elohim avait regardé un peu la situation, il a dit c'est insupportable cette situation, tout se passe exactement, ils sont tous dans les ténèbres, il faut que la lumière vienne. Alors, il y a le commandement divin, Yehi Or, c'est Abraham. La lumière qui est produite ici, c'est Abraham. Adao Dirtiv, ça correspond à ce qui est écrit dans le Passouk, Mi He'ir Mi Mizrach. Tzedek, donc on peut mi-he'ir, ça veut dire qui a éveillé, donc he'ir avec un ayn, c'est qui a éveillé du Mizrach de l'Est la justice, et on peut au lieu de lire qui a éveillé, c'est-à-dire de lire Himi He'ir avec un Aïn. On peut lire Himi He'ir avec un Aleph. À ce moment-là, c'est qui a illuminé. Alors, non pas qui a... Ici, ça voudrait dire ici que qui est-ce qui a fait illuminer, qui est-ce qui a fait briller le... Alors, c'est Abraham. Donc Abraham est à la fois vu ici comme celui qui a réveillé, en fait, et celui qui a fait briller. On verra après. Vaikra Elohim Laor Yom. Et Elohim a nommé. Il a appelé. La lumière, il l'a appelé jour. Yom. C'est Yaakov. Ça, c'est Yaakov. Vela Hosher Kara Laila, c'est Esav. Et la période nocturne, il l'a appelé Laïla. Ce qu'on appelle Laïla, c'est ça. Vahi Erev, et ce fut soir, encore une fois, c'est ça. Vahi Boker, c'est Yaakov de nouveau. Vahi Erev, c'est Arvo Shel Esav. C'est le Erev, le coucher de soleil, si vous voulez, là. Le commencement de la nuit des Saves. Vahi Boker, c'est Bakaro Shel Yaakov. C'est le commencement du jour de Yaakov. Et c'était Yom Echad, un jour un. Shenemar Vehaya Yom Echad. Ou Ivadal Hashem, Lo Yom Velo Laila Begomer. C'est-à-dire, ici, il y a un jour qui est appelé un jour un jour unique, un jour qui peut être un commencement. Pasouk dit, effectivement, dans le Navi, il dit voilà, il y aura un jour qui sera un jour un, Hachem le connaît, il y aura plus de jour et de nuit, mais même le soir, on sera dans la lumière. Et il y a une dernière autre explication, avant Acher, Yom Echad Shenatan Lo HaKadosh Baruch Hu. C'est un jour, il y a un jour particulier, HaKadosh Baruch Hu a donné, lui a donné, on ne sait pas très bien à qui, si ce n'est pas marqué à qui ça a été donné. Vous allez voir du contexte, on va savoir à qui ça a été donné. HaKadosh Baruch Hu a donné un jour unique. C'est HaKadosh Baruch Hu a donné ce jour unique, et quel est ce jour unique? C'est Yom HaKippourim. Chazal disent que tous les jours viennent en quelque sorte par père, et Yom Kippour, lui, il n'a pas vraiment de père. Il n'y a pas de benzoug, il n'y a pas un autre jour pour faire la paire. C'est un jour tout à fait particulier, Yom Kippour. Voilà, donc une nouvelle façon de travailler sur ce verset. C'est plus du tout en confrontant ce verset avec un verset des psaumes ou un verset des proverbes. Bon. Cette fois-ci, on prend le verset et on va le lire au fond. Qu'est-ce que c'est que cette lecture, en quelque sorte? C'est quoi une lecture comme celle-là? On a un verset. Ce verset est je parle de Vahare Saita Tou Vavou, Vefrocher Altne Tom, Vouach Elokim Rachetet Altne Amaim. Ce n'est pas encore un verset qui parle de la création elle-même, puisqu'on est avant le Yehi-Or. Après, la suite, ce sera Yehi-Or. Le Yehi-Or, c'est un nouveau verset, si vous voulez. C'est autre chose. Bien que, dans son explication, il déborde sur Yehi-Or. Mais, si on peut le regarder comme ça, on a un verset, il parle des générations avant Abraham Avinu. D'accord? Tout ce verset, il parle des générations d'avant Abraham Avinu, puisque quand Abraham Avinu intervient, on est dans le nouveau verset. Elohim a dit Yehi-Or. C'est un nouveau verset. Donc on voit très bien que de ce simple point de vue de la séparation des versets, on entend bien que Abraham commence quelque chose de radicalement nouveau. Et c'est pour ça que juste avant Abraham, il explique le verset en disant que Akadosh Baruch Hu, il a regardé le monde, en fait, cette espèce de il a eu. Ruach Elohim, qui est Merachepet Alpne Amaim. Et ça fait référence à un regard où Hachem regarde le monde et il dit, mais ça va pas du tout. Ça démarre pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui commence. Rien ne commence. Tout reste dans les ténèbres, dans la Afela, dans l'obscurité en tout cas. Ça veut dire que on est parti de l'insignifiance et on a abouti à l'obscurité. On a abouti à effectivement une situation d'obscurité telle que les gens se trompent. Et une erreur. Ils pensent que Hachem ne voit pas. Que le Créateur, en fait, il pense au Créateur, parce qu'il dit, Hachem est là, mais il ne voit pas ce qu'on fait. Comme si le Créateur, il avait créé quelque chose qui l'aurait, d'une certaine manière, dépassé, puisque maintenant, ces créatures peuvent faire des choses qui échappent complètement à Hachem. C'est ce qu'il pensait. Les créatures pensaient ça. Comme si, à leurs yeux, Hachem était une espèce d'apprenti sorcier. Il fait des choses qui ensuite le dépassent. évidemment, il n'en est rien. Et pour ça, il faut commencer une autre ère, un nouveau pasouk. Alors, on a d'un côté une suite de générations, d'accord, qui est, cette suite de générations, elle est posée pour correspondre à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce qu'on va dire de ce verset? C'est une espèce de description de la situation, de description de l'espace. Voilà le monde tel qu'il était, et on va plaquer dans sa lecture, on va plaquer sur cette description du monde, description des générations, la génération depuis Adam jusqu'à, en fait, de Adam jusqu'à Abraham, avant Abraham, disons. Et d'Adam à Abraham, il y a une vingtaine de générations. D'accord? Donc, ce verset-là, il décrit une situation, et puis lui, il vient commenter et dire, bon, ce verset, il correspond en réalité à quelque chose qui a duré 20 générations. Générations durant lesquelles c'est allé de mal en pis. D'accord ? Il n'y a même pas... On peut se dire que finalement, est-ce que tous les éléments fondamentaux y sont ? Il y a bien le Dor HaMabul, mais d'une certaine manière, il y a un saut. Il a dit « J'ai Dor HaMabul ». Et puis ensuite, il y a ce verset qui parle de ce regard sur le monde, qui est plus lié au... Il n'y a plus de génération. Il parle plus des générations. Donc c'est étrange parce qu'en vérité, jusqu'au Dor HaMabul, c'est la génération de Noir, c'est seulement 10 générations. Il y a 10 générations dont il ne dit rien. Il n'y a pas de personnage qui soit mentionné sur les 10 générations de Noir jusqu'à Abraham. Il parle que des générations depuis Adam jusqu'au Maboul, jusqu'à Noir, si vous voulez. Il y a 10 générations. Et c'est de ça qu'il parle, quand il décrit les choses. Et après, il y a un verset qui, on a l'impression, le verset s'étale en quelque sorte. Bon, ça veut dire le Ruach Elokim, Merachefet. Ruach Elokim, Merachefet, Alpnei, Tom. Pardon, Merachefet, Alpnei, Amaim ici. Et il met en rapport ce Rav Yehuda Bar Simon, il met en rapport ce verset-là, où le Ruach Elokim, qui est Merachefet, Alpnei, Amaim. Avec un verset qui dit « Vayaver Elokim ruach al haaretz ». Elokim a fait passer un souffle sur la terre. C'est quoi ? De quel pasouk parle-t-on ici ? On parle justement de déluge, en fait. On est entièrement dans le déluge. Et c'est à la suite du déluge qu'Hachem, ici dans ce midrash, dit « Ça suffit, c'est jusqu'à quand est-ce que Aolam Mitnaïk Ba fait là ?» Donc c'est assez étrange parce que il a fait l'impasse sur Noir. Il fait l'impasse complètement sur tout Noir et tout ce qui suit Noir, sur Shem, Ham, Yafet, qui sont quand même personnages. Donc, qui semble-t-il ne mérite pas d'être, ces générations ne méritent pas d'être égrenées en quelque sorte. On n'en parle pas. On a sauté du Maboul à Abraham Avinu. Sauté 10 générations. Parce que finalement, ces générations, ça veut dire, pratiquement, ces générations n'ont fait que continuer de s'enfoncer comme si elle n'avait rien appris du Mavoud, rien appris du déluge. Au fond, le déluge aura donc été un déluge pour rien, si on peut parler comme ça, si on ça n'a pas changé. Noach n'est pas un nouvel Abraham. Enfin, pas un nouvel, mais Noach n'est pas Abraham. Et la génération d'après le déluge n'est pas la génération d'Abraham. Ça ne représente pas la lumière. Les gens qui ont mérité de passer à travers, de survivre au déluge, mais ils ne sont pas, ils ne correspondent pas à la lumière. Ça donne rien, en fait. Rien de spécial. Ça continue d'être l'obscurité. Bon, ça dure jusqu'à ce que on n'en puisse plus, quoi. De nouveau dix générations. Jusqu'à ce que, boum, c'est trop maintenant. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu met un terme à tout cela et il amène Abraham. Et Abraham est...
Mais dans la traduction, là, ils disent que, en fait, le souffle d'Elohim renvoie à Elohim d'un souffle pour apaiser les eaux.
Oui, non, c'est le souffle qui a permis que le déluge, d'effacer la trace du déluge. Il faut bien assécher le déluge. C'est ça que dit le verset.
J'avais compris que vous aviez dit que ce souffle-là, c'était pour le déluge, pour provoquer.
Non, c'est marqué le déluge. On sait très bien que c'est la génération du. Il parle pas du déluge directement, mais dit que même dans votre traduction, sur la face de l'abîme, Alpne Terom, ça renvoie à la génération du déluge. D'accord. À ce moment-là, il y a les déluges. Voilà, donc, il n'en parle pas plus. C'est la génération du déluge. Donc, la génération qu'on appelle la génération du déluge, c'est ceux qui ont été détruits par le déluge. Donc, il y a eu le déluge, et puis tout a été détruit, sauf Noah et sa famille. Et comment maintenant ça... Alors, il a envoyé un souffle pour assécher tout ça, pour refabriquer une terre, en quelque sorte, sur laquelle Noah va être amené à vivre. On aurait pu penser que Noah allait faire quelque chose de... Voilà, il allait amener de la lumière, quoi, quelque part. Il n'en est rien, quoi, si vous voulez. Noah, c'est vrai qu'il a mérité d'être sauvé, mais on va lui reprocher de ne pas avoir intercédé pour sa génération. Mais ensuite, il est quasiment mis de côté par ses propres enfants. D'accord? Dans la fameuse histoire, Ham et Yafet, donc de Ham et Canaan. On l'a enlevé du tableau pour pas qu'il puisse avoir d'autres enfants, etc. Et puis, c'est allé en dégradant. C'est tout. On est complètement dans les ténèbres, enfin, dans un chemin d'obscurité, comme on dit. Jusqu'à quand? Est-ce que, effectivement, voilà. Donc, voilà. Ad matai ye haolam mitnaheg be'afela. Tavo aora. Donc c'est comme si Hachem avait laissé le monde aller, et puis il dit, mais ça ne va pas du tout. Hein. Il se dirige dans l'obscurité, il reste dans l'obscurité. Il faut que la lumière vienne. Donc c'est tavo, ça veut dire, c'est quoi? C'est Hachem qui donne un... Après, il y aura un ordre. Yehi Or. Mais avant, il dit Tavo Aora. Donc d'abord, comme s'il y avait une réflexion, il faudrait que la lumière vienne. Ok, alors je donne l'ordre. Voilà, la lumière. Et la lumière, c'est Abraham. Donc il y a quelqu'un qui arrive dans le tableau, en quelque sorte, c'est qui amène la lumière. Alors la lumière ici, elle est vue comme ayant deux fonctions. Une fonction d'éveil, Eir avec un Aïn, d'accord, Mi Eir, Mi Mizrach. Et l'éveil, c'est quoi? L'éveil d'amener la justice. La justice qui vient ici de l'Est. Mais en fait, il faut pas lire comme ça. Il faut lire non pas avec un Aïn, mais avec un Aleph. Dans le pasouk, c'est écrit avec un Aïn, mais il faut le lire avec un Aleph. Vaikra Elokim Laor Yom. Et puis donc, si je lis avec un Aleph, ça veut dire illuminer, faire briller. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il faut plutôt lire, faire briller, illuminer, plutôt que lire, comme c'est écrit, éveiller. Est-ce qu'au fond, le travail d'éveiller n'est pas un travail plus important que celui de faire briller? De toute manière, ça vient de l'Est. D'accord. C'est quelque chose, faire briller quelque chose qui vient de l'Est. Alors, Atikra, donc le Etz Yosef, il dit Atikra Ir Ela Ir. Bon, il explique que la lettre Aleph et Aïn peuvent se remplacer l'une l'autre. Et pourquoi est-ce que, d'après lui, pourquoi est-ce qu'on a plutôt dit avec un Aleph? Parce que visiblement, la lumière, elle vient de l'Est, le soleil se lève à l'Est. Donc, si tu dis l'éveil, on ne voit pas pourquoi ça viendrait de l'Est, c'est ça l'histoire. Et que j'arrive pas à lire le verset en l'éveil qui viendrait de l'Est. Alors, pour ça, je corrige et je lis qu'il s'agit de la lumière, qui elle, donc c'est le soleil qui vient de l'Est. La lumière vient de l'Est. Et une fois qu'on a eu Abraham, qui amène la lumière, disons, alors, à Kadosh Baruch Hu, enfin, Elohim, à ce moment-là, il nomme cette lumière. Cette lumière, là, il la nomme jour. Et là, il continue. Qui est-ce qui est nommé jour? C'est Yaakov. Et le complément de ce jour, qui complète la journée par la partie nocturne, si vous voulez, la Rocher, Karalaila. Aux ténèbres, il les a nommés Laila, ça c'est Esav. Alors le Marzou là-dessus, il dit, c'est curieux, il dit, il amène sur la Rocher Karalaila, il prend le Pasouk, Shomer Ma, Milaila, etc. Shaim, la Rocher Kidmou. Bon, les Roshaim, voilà, ils sont dans les ténèbres. Il dit, Pirush, c'est Gazar al Yaakov, c'est Yimshol Bayom. Akadosh Baruch Hu a décrété que Yaakov aurait le pouvoir de jour. Le jour, c'est Olam Haba. Est considéré comme entièrement jour. Et Veal Seir est sur Esav, quand Baruch Hu a décrété que lui, il dirigerait, il gouvernerait, il maîtriserait la nuit, c'est-à-dire Olam Hazeh. Ce monde-ci qui représente, qui correspond à la nuit. Et donc, bon, alors il avait même un problème, c'est pourquoi on dit le jour avant la nuit. Et pourquoi est-ce que le verset, donc pourquoi on parle de Yaakov d'abord et Esav après? Donc l'idée, c'est Esav qui a le pouvoir et c'est Yaakov qui vient derrière. D'abord, premièrement, c'est marqué dans le pasouk, que Yaakov, il est derrière et il tient le talon d'Esav. Il est derrière Esav. Donc le jour et après la nuit. Pourquoi est-ce que le pasouk, ici, nous présente les choses à l'envers? Alors il dit que c'est toujours ce fameux principe où on dit que sauf Maasev Marshavatrila. C'est-à-dire les choses, elles se réalisent d'une certaine manière dans le monde. Et au niveau de la pensée, les choses qui se réalisent en dernier ont été pensées en premier. C'est-à-dire le but est pensé en premier, mais ensuite il se réalise qu'en dernier. C'est pour ça qu'il dit, on va dire, il dit Erev Vaivoker. Corrige. Il y a eu d'abord un soir et après un matin. Et après, on va dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de En Erev Samouch le Boker, Erev Sofayom Filatalaila. Erev, c'est pas la nuit encore. Erev, c'est le soleil est en train de se coucher. Ça, c'est le Erev. Là, on y explique quand on dit Ben Arbaïm, pour donner le, par exemple dans le pasouk du Korban Tamid, Ben Arbaïm, c'est entre le premier Erev, qui est le moment où le soleil commence à. Il a passé par son zénith, par le point le plus haut, puis ensuite il commence à descendre. Les ombres commencent à se manifester. Ça, c'est le premier Erev. Et l'autre, c'est celui après le coucher du soleil. Les ténèbres, la nuit s'installe. Elle va s'installer en quelque sorte. Donc le Erev, c'est ça, c'est la fin du jour et le début de la nuit. Et donc, on dit vaillé Erev. Après qu'il ait dit la Rocher Karalaila, non, Erev c'est avant la Laila. Donc il aurait dû dire d'abord le Erev et après le Laila, de nouveau la même chose. Alors il fait une dracha dans lequel le Midrash dit, et il va dire comme ça que c'est marqué Erev, ça veut dire fin de. Et donc, on peut parler de la fin de quelque chose. Et la nuit, il l'appelle vraiment, enfin, les ténèbres, il l'appelle vraiment ça la nuit. À ce moment-là, la fin, c'est-à-dire la nuit, elle vient après le Erev et le commencement de la nuit, le tout début. Et c'est ça la suite des drachot qu'on a à la fin de ce midrash. Voilà, c'est. Maintenant, on va essayer de regarder d'un peu plus près ce qu'il veut nous dire ici. C'est-à-dire qu'au lieu de Rav Yehuda Bar Simon, il prend un pasouk qui parle de la création, et qui parle d'un moment de la création où évidemment il n'y a pas d'homme. Et il dit, mais ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, ce sont les hommes. Donc il va expliquer, il va lire ce verset en termes de générations qui se suivent, c'est-à-dire une espèce de déroulement, comme les versets parlent d'un déroulement. Ce verset de Vare Saitato, Vavou, Vechocher, etc. C'est une suite d'événements, Vechocher, etc. Il dit, ben lui, ça correspond. Il veut le voir comme la suite des générations. Et évidemment, cette suite des générations, elle commence avec Adam Arishon. Et alors, comme on dit que la Terre, elle était tôt vavo, alors il présente tôt vavo comme étant le couple Adam-Caïn. À la limite, Adam qui n'est rien et Caïn qui veut retourner au rien. Bon, Caïn, il est quelque chose, mais il veut ramener le monde ou à ce rien. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous enseigner, cette histoire? C'est-à-dire, c'est ça, Caïn. Caïn, c'est le premier produit du couple original, je veux dire originel, bon, le premier enfant. Si vous voulez, le premier qui inaugure une chaîne de génération. Caïn et Abel, ils commencent une chaîne de génération qui ne commence pas. Ils sont en rupture par rapport à leurs parents. Leurs parents ne sont pas homogènes, si vous voulez. Ils peuvent pas être vus comme une génération. Ils n'ont pas été générés au sens des générations successives. Les générations dont on va parler ici, ce sont des générations humaines. C'est des humains qui produisent des autres humains. Caïn, c'est un produit de, bon, même si on dit que ce sont des êtres humains, mais ce n'est pas des êtres humains ordinaires, c'est des êtres qui vont produire de l'humain. D'accord? Et donc, Caïn, c'est comme si lui voulait ramener la situation, le monde dans l'état où il était avant quoi? Le monde avant toute la création, avant tout ce qui va se passer sur la Terre. Alors que la Terre n'était que désolation, si vous voulez. Est-ce que ça peut bien nous enseigner de nous dire que finalement le premier être humain produit, disons, de façon presque normale, son projet, c'est de tout détruire. Comme si. Alors, il est issu de quelqu'un qui n'était rien, qui était complètement. C'est étrange. Adam, il était. L'ema, le clou. Rien. Il était rien. Donc, on a cet homme, cet être humain, cet être premier, disons, Adam. Il n'est rien. D'après lui, d'après Rabbi Yehuda Bar Simon, il n'est rien du tout. Et, en fait, il est tôt. Et, il lit que ce Rabbi Yehuda, il lit tôt vavo, comme si tôt et vavo étaient déjà des générations. Tohu, c'est une génération, et Bohu, c'en est une autre. Tohu, c'est l'homme, c'est Adam Arishon, et Bohu, c'est Caïn. Bohu, c'est Caïn.
Mais sans vouloir faire de la psychologie bon marché, si on peut dire, ça fait penser à ce qu'on a vu la semaine dernière avec Rabbi Tanhuma qui a défini la terre comme la terre nourricière, nourrice de l'homme. C'est-à-dire qu'on a un rapport à la terre extrêmement fort, comme un enfant par rapport à sa mère. Et cette envie de destruction, ce qu'on ne peut pas dire de Caïn, c'est justement cette envie de retour à la mère, de retour à la matrice.
Oui, enfin, lui, il va plus loin, semble-t-il, sur Amiouda, parce que pour lui, d'abord, il n'y a pas la mention de la, ne parle pas du tout de... On ne sait pas ce que ça voudrait bien dire que Caïn voulait « Bikesh l'arzir et à olam le tohu vabohu »« Ramener le monde à tohu vabohu » C'est quoi? D'après sa lecture à lui, c'est ramener tout le monde comme si le monde allait rester dans l'état dans lequel était son père. Adam, puisque tohu c'est Adam, ici dans ce texte. Donc lui veut ramener, à la limite il dit « moi je suis déjà beau, c'est déjà une évolution, mais je veux revenir, je veux ramener le monde, et je ne veux pas que le monde bouge, en quelque sorte. Je veux que le monde reste dans cet état de tohu. Va rester dans ce non-développement, en quelque sorte. Donc c'est comme s'il refusait, quand il refuse le déroulé des générations. Je veux pas de génération. Je ne veux pas. C'est ça que ce Rabbi Yosef, ce Rabbi Yehuda comprend, que Tohu c'est quelqu'un qui ne veut pas que le monde devienne monde. En fait. Il ne veut pas que la chose évolue. Il ne veut pas d'évolution.
Oui.
Génération, la notion de génération, c'est une notion d'évolution. On évolue, on avance.
Comme un enfant.
Non, je veux pas. Il veut pas ça.
Comme un enfant qui ne voudrait pas grandir, en fait. C'est peut-être là un peu le rapport.
Seulement pas grandir, mais à la limite, il veut même revenir, revenir à l'état dans lequel était son père, si vous voulez. Il veut pas. Il veut même pas exister au sens de. C'est comme s'il refusait d'être produit par son père, produit par eux, puisque lui veut ramener le monde à l'état où était son père. Bon, ça le dérange pas. Adam le dérange pas si je considère que le retour, le ramener le monde à tohu vabohu, ça veut dire ramener le monde à l'état, refuser qu'il y ait des générations et sans en rester à Adam, quoi, en rester à ce tohu, en rester à cette situation-là, c'est, comment est-ce que vous diriez quelqu'un qui refuse, pas refuse le progrès, mais il refuse de changer quoi que ce soit. Je refuse même d'exister, c'est-à-dire on ne veut pas que quelque chose sorte de... C'est comme si, au fond... Vous voulez, la question qui se pose, c'est quand Adam Harishon a été créé, on a l'impression, ça c'est une grande discussion, le problème c'est est-ce que les enfants d'Adam ont été créés avant la faute ou après la faute? Bon, a priori, si je dis que les enfants d'Adam n'ont été créés qu'après la faute, ça veut dire la chose suivante. Être créé quand il existe la mort, parce qu'après la faute, on est dans un monde où la mort existe, ça veut dire que avoir des enfants, d'une certaine manière, c'est contrer, lutter contre la mort. La mort fait disparaître, et je vais compenser. Mais, c'est ça l'essentiel. Alors que si on dit que les enfants, ils sont nés avant, alors ils viennent pas du tout, ils n'ont pas de rapport avec la mort. Ça veut dire qu'avoir des enfants, c'est quelque chose qui se justifie pour soi-même, pas du tout, parce que, mais par, comme si, mais à part ça, on ne sait pas non plus si Adam et Chava auraient eu plus que ces deux enfants. Si Caïn n'avait pas tué Hevel, on ne sait pas ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Harishon. Si on dit qu'ils ont été créés avant, alors ça veut dire que le projet initial divin, c'était en tout cas de commencer avec un homme, une femme et des enfants, parce qu'en réalité, même si on n'en parle pas explicitement, mais quand Caïn et Hevel naissent, ils naissent avec des jumelles. Donc il y a aussi les filles. Donc ça voudrait dire une espèce de cellule familiale initiale. Et peut-être que Caïn voulait, au fond, il aurait voulu que on en reste là, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin de plus que ça. C'est pas nécessaire de se développer plus que ça. Tout peut se jouer dans cette cellule, et peut-être qu'il pense que même tout pourrait bien se jouer simplement entre Adam et Chava. C'est pas nécessaire d'aller plus loin. Tout peut se jouer entre Adam et Chava. Et on a un peu l'impression que si Adam n'avait pas fauté, s'il avait mangé le fruit en son temps, c'est-à-dire Shabbat, l'histoire était terminée. D'accord? Ça veut dire, bon, c'était tout. Qu'est-ce qu'Hachem voulait? Il a créé un monde pour qu'on le reconnaisse. Ok? Alors Adam, s'il avait attendu le temps, il aurait été prescrit d'attendre, eh bien, on l'aurait montré. Voilà, il aurait reconnu Hachem. Et donc l'opération est terminée, le monde est fini. Et donc, quelque part, d'en passer par des générations, c'est une espèce de constat, enfin un constat où c'est, on va intégrer l'échec. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et donc il va falloir fabriquer un nouvel Adam, si vous voulez. Le nouvel Adam, ce sera l'humanité tout entière. Nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité, elle va, étant donné que Caïn va tuer Hevel, que d'une certaine manière, ayant tué Hevel, il s'est, en quelque sorte, il s'est disqualifié, quoi, d'une certaine manière. Et l'humanité ne peut pas descendre de Caïn. Parce que Caïn s'est disqualifié. Alors Adam et Chava vont avoir un troisième enfant, comme tout le monde sait, et nous descendons de ce troisième enfant. Alors je sais qu'il y a une discussion pour savoir si la femme de Noah est une Caïn, est une descendante de Caïn, parce que Caïn, il aura sept générations de... Puis au bout de sept générations, il va disparaître, toute trace de Caïn. Et il y a une Naama, qui est la femme de... qui est une descendante de Caïn, et il y a une Naama qui est la femme de Noah. La discussion est de savoir est-ce que ces deux occurrences du mot Naama correspondent à la même femme. Si on dit que la Naama de Noah, c'est une descendante de Caïn, alors je vous annonce la bonne nouvelle, quoi. Nous sommes tous des descendants d'une certaine manière de Caïn. Par les femmes, mais quand même. Donc, voilà. Et sinon, si c'est quelqu'un d'autre, alors on n'a plus rien à voir avec Caïn. En tout cas, ce Caïn-là, visiblement, on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas que ça avance. Il veut pas. Il veut revenir en arrière même. Et donc, c'est une démarche. C'est-à-dire de penser que un être humain statique, bon, qu'il n'avancerait pas. Ou alors, en tout cas, on n'a pas besoin d'avancer par le biais de la reproduction. On peut revenir et laisser les choses dans l'état. Un Adam qui n'aurait pas d'enfant. Un Adam qui n'aurait pas d'enfant, bon. Est-ce que ça a un sens, si vous voulez? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que, bon, cet Adam et Chava qui, bon, c'est eux qui feraient les Maasim Tovim, ils devraient, eux, faire tout un travail pour arriver à reconnaître Hachem. A priori, quand Caïn va tuer Hevel, etc., à ce moment, on est déjà après la faute. Et donc, il y a déjà de la mort dans le monde. Et lui, à la limite, il pourrait très bien dire, bon, visiblement, ce monde avec la mort, peut-être que ça donne un autre sens et que lui, il veut pas de ce sens-là. Une vie qui serait simplement qui serait une lutte contre la mort. Il veut pas ça. Pourquoi? Je préfère qu'il n'y ait pas de mort dans le monde. On revient à une situation jusqu'à ce que Adam et Chava arrivent à faire ce qu'il faut, mais sans en passer par la mort. On aurait pu dire que si Adam et Chava ont fauté et que Hachem leur a dit vous êtes vous allez mourir, ça veut peut-être dire simplement, mais c'est vrai, vous n'aurez pas de, il n'y aura pas de descendance, il n'y aura plus On aurait pu imaginer une situation, voilà. Tout se joue uniquement dans ce seul couple-là. On a quelque chose. Je voulais quand Abraham Avinu, il reçoit une promesse d'Hachem. Je ferai de toi un grand peuple, etc. Et lui, il dit, Adam, il dit, mais tu parles. J'ai même pas un premier enfant, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant, que tu parles. Est-ce que il y aurait une possibilité que ça recommence avec Adam et avec Abraham et Sarah? C'est tout, Abraham et Sarah. Sans que ce soit eux qui fassent le travail. C'est eux l'humanité. Seulement Abraham, lui, il n'a pas compris que ça pouvait. Il ne voulait pas de ça, en tout cas. Il s'est dit non, moi, je veux avoir un enfant, pas simplement que je vais faire moi les choses avec Sarah et. Non, il faut rayonner. Il veut absolument rayonner. C'est cette idée de, comme on dit, il va briller, il va aussi éveiller Abraham Avinu. Il va éveiller l'humanité à autre chose que ce qu'elle connaissait déjà. Abraham, il n'est pas dans un désert, il est dans une civilisation, c'est éventuellement Sumer, etc. C'est donc une grande civilisation. Et lui, il va les réveiller. Il va réveiller parce qu'il va amener quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va briller, qui va illuminer. Mais, en fait, c'est une espèce de lumière brute, si vous voulez. Au sens où, bon, ça illumine, ça réveille, mais ça, c'est pas structuré. Ça se structurera qu'avec Yaakov. Du coup, Elohim va nommer la partie. Il y a de la lumière, mais cette lumière-là, elle vient repousser les ténèbres, mais elle n'a pas annulé les ténèbres. Il y a de la lumière et des ténèbres. Bon, il y a une discussion pour savoir si, à un certain moment, la lumière et les ténèbres fonctionnaient en même temps. Une espèce de je ne sais pas, de fog londonien, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, de la lumière et de l'obscurité en même temps. Hachem a décidé de les séparer. Et la partie diurne, voilà, c'est Zé Yaakov. Maintenant, ça veut dire, quand je regarde le déroulement de l'histoire, le déroulement de la création, d'accord, l'évolution, il y a de la lumière qui date d'Abraham, c'est Abraham, bien pour illuminer, pour éveiller, mais bon, c'est pas vraiment structuré. La structuration, elle va se faire avec le couple Yaakov et Esav. C'est-à-dire, on va garder la partie ténèbres, la partie nuit, et ce sera le domaine des sages. Et cette partie nuit, d'une certaine façon, elle sera, c'est pas vraiment une nuit dans laquelle on voit rien du tout, n'est-ce pas? C'est appelé Olam Hazeh, c'est notre monde. C'est nous qui sommes dans cette partie nuit. Olam Hazeh. Et la lumière, en quelque sorte, comme on dit, la lumière d'Hachem l'a mise de côté pour, etc., ben, la lumière, la vraie lumière, c'est Olam Haba. Donc, on est dans le domaine des sables, d'après ça. Même c'est, la nuit, c'est les sables. Et, alors après, il va y avoir, comme si Hachem avait pris les choses une première fois, il y a la partie lumière, la partie obscurité, c'est Yaakov, ils savent, ce couple-là, ils vont travailler ensemble. Une journée, vous voyez, on a l'impression, il y a une entité qui est faite d'une partie diurne et d'une partie nocturne, donc ils savent Yaakov, et cette partie-là, si on la regarde, on peut aussi la regarder comme Olam Hazeh et Olam Haba. Ils forment un tout. Alors, c'est pas qu'il y a un monde Olam Hazeh pour soi, puis un autre monde. Ça forme un tout. Bon, le Messilat Yesharim, Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la jouissance. Et seulement, pour que la jouissance soit parfaite, il fallait qu'elle ait lieu dans un monde qui soit consacré entièrement à la jouissance. Et pour que ce soit super parfait, avec le problème de Naaman, de Kisufa, etc., il va falloir que cette jouissance qu'Hachem va nous donner, elle soit la résultante d'un salaire. Que ce soit un salaire, et donc il a créé un monde, l'Amazé, qui sera le monde où on va travailler pour gagner ce salaire qui va nous permettre de vivre pleinement le Olama Ba, sans aucune tristesse, sans aucun sentiment de Naaman de Kisufa, de honte, etc. Et tout ça, ça forme un tout. C'est le Olam Hazeh qui est au service d'après la Mishnah Sechaim, Olam Hazeh qui est au service du Olam Haba. Pour que le Olam Haba soit parfait, il faut qu'il soit précédé d'un Olam Hazeh. Il faut, pour que la partie lumière soit parfaite, il faut qu'elle soit précédée d'une partie obscurité. C'est Vahi Erev, Vahi Boker. D'abord qui est Erev, mais c'est un Erev, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va glisser vers la lumière. L'obscurité est une obscurité en vue de la lumière. Pour que la lumière soit claire, c'est évident que c'est l'existence de l'obscurité qui nous fait prendre pleinement conscience de la lumière. S'il n'y avait que de la lumière, on n'aurait rien du tout.
On retrouve un peu toujours cette même dichotomie, en fait. Puisque l'idée que le jour et la nuit étaient d'abord ensemble et qu'il y a eu une séparation, est-ce qu'on peut la mettre en parallèle avec le déroulement de la création qui était également Adam et Chava étaient Zarach Nekeva. Il y a eu aussi une séparation. Donc c'est comme s'il y avait une nécessité de créer une altérité pour faire tout un cheminement après, pour finalement, si on peut dire ça comme ça, recréer cette unité qui était au départ et qui a été séparée.
Oui, c'est juste l'unité de Adam et Chava, elle a encore aussi d'autres raisons d'être, mais celle-là, elle existe effectivement aussi. Donc, on a cette idée de peut-être que quelqu'un pourrait imaginer, si vous voulez, que les choses se jouent dans un couple, simplement. Un couple est de cette façon, si vous voulez, assez riche pour que tout puisse s'y passer. Et la nécessité ou le passage, peut-être que ça vient de l'existence de la mort, qu'on a besoin pour perpétuer l'espèce. Et pourquoi faudrait-il perpétuer l'espèce? D'accord? D'après Caïn, lui, il ne veut pas perpétuer l'espèce. Il ne veut pas de génération. Il veut revenir à un état sans génération. Donc après qu'on ait quelqu'un qui n'est rien du tout, qui effectivement, mais qui va produire le premier élément de dégénération, mais un premier élément qui refuse en réalité, il refuse sa condition quelque part, il refuse sa condition d'être une génération. Il veut pas être une génération. Et d'ailleurs, il va pas l'être, puisque finalement, au bout de cette génération, il va disparaître. De ce point de vue-là, il n'a pas gagné tout de suite, mais ouais, effectivement, il donnera pas lieu à une génération. Il veut pas de ça.
Excusez-moi, Rabbi. Ici, on n'est pas choqué un petit peu de la position de Rabbi Bar Simon, qui quand même met à la trappe à la fois Abel Noé et sa famille, Shem, Seth, Ram, comme vous l'avez dit, et quelque part aussi peut-être Yitzhak. Ah, comme ça, il enlève comme ça des figures aussi majeures, sachant que, par exemple, pour Havel, il agrée Havel, il n'agrée pas Caïn. Alors oui, Havel est tué, malheureusement. Noach, il n'en parle pas. Comme si, comme vous l'avez dit, ces 10 générations, bon, peu importe, ils n'avaient pas la lumière, ces gens-là. Mais néanmoins, Noach, les Bnei Noach signifient quelque chose dans la famille des nations. Yitzhak, c'est pas rien quand même, même s'il essaye peut-être de faire un peu comme son père, comme vous nous l'avez enseigné plusieurs reprises, mais Yitzhak, c'est le din. Qu'est-ce que le peuple, enfin, qu'est-ce qu'est l'humanité sans le din?
Oui, je ne pense pas que le projet de Yehuda Bar Simon, c'est de faire une généalogie complète. On voit très bien que ce n'est pas son projet. Donc lui, il veut marquer certains points. Il pense qu'il y a des choses, vous avez raison, il y a des choses qui, dont nous, on pourrait penser que ça avait un rôle, mais ça a eu un rôle certainement. Mais dans sa façon à lui de, quand on dit ce qu'était la terre, on dit pas tout, tout n'est pas dit de ce qu'était la terre à ce moment-là. Pare, saïta, tohu, vabo, recherche, etc. Mais personne ne dit que la liste était exhaustive. D'accord? Là non plus. La liste n'est pas exhaustive. Il veut nous donner une idée, une nouvelle idée, si vous voulez. De voir le déroulé de la création, non pas en termes de la création physique du monde, vous voulez, mais de considérer que, au fond, ce qui nous intéresse, nous, dans la création du monde, c'est la création de l'humanité. Et des éléments qui nous donnent des idées sur ce qu'est l'humanité, si vous voulez, depuis ses débuts, jusque, et pas très loin, parce qu'on va jusqu'à Abraham Avinu, on va dire quelque chose sur Yaakov, et après c'est tout, et tout ce qu'il a. Il s'agit, lui, il parle d'un certain verset, il veut dire quelque chose sur ce verset. Il n'est pas parti pour nous faire la liste des générations, parce que premièrement, on n'a pas besoin de lui, puisque c'est déjà fait dans la Torah. Donc, il ne veut pas nous dire quelque chose qui est déjà dans la Torah. Il veut, c'est ça le travail. Il veut montrer qu'on peut très bien entendre la création comme un processus, non pas de création du monde, mais de création de l'humanité. De fabrication de l'humanité à partir du moment où on a la terre. La terre, et c'est ce verset qui parle de la terre. Sur la terre, qu'est-ce qu'il y aura? Il y a l'humanité. C'est, d'accord? Eh bien, cette humanité, elle est décrite ici, voilà. Mais c'est une description tout à fait partielle. C'est des points qu'il a pensé. Alors, c'est sûr que on peut discuter, y compris sur le rôle d'Yitzhak, le rôle de Hevel, etc. Bien sûr qu'ils ont des rôles. Mais ce que lui voulait montrer, ben il le montre avec les quelques éléments qu'il a singularisé pour que il veut pas avoir plus de, pas mettre en place plus de générations qu'il y a de termes dans la description de la Terre. Parce que lui, c'est un midrash sur le verset qui parle de la terre. Donc il est d'Oresh, il ouvre une nouvelle porte. Parce qu'à présent, on a parlé de qu'est-ce qui était créé avant, après, etc. Et puis maintenant, il dit, mais finalement, on peut regarder les choses complètement différemment et se dire que ce qui nous importe, finalement, ultimement, ben, c'est l'humanité. Quelques éléments de la mise en place de l'humanité avec une humanité qui commence avec trois fois rien, avec quelque chose. C'est très étonnant de présenter Adam Arishon comme une nullité pareille. D'accord? On n'a pas l'habitude de considérer que Yetzir capable chez la Kadosh Baruch Hu. Il est quand même celui qui a été fabriqué par Hachem, et lui, il le présente ici comme une super nullité.
D'autant que c'est, c'est même choquant, puisqu'en fait, ici, Adam, dans la Torah, on le voit, il donne à la nature son nom.
Ouais. Écoutez, il faut vous habituer. Le Midrash, il va vous choquer de nombre. Bon, et merci Hachem, on va pouvoir étudier beaucoup de Midrashim, vous allez voir, vous n'êtes pas au bout d'être choqué. C'est pas la première fois, je sais, mais je vous garantis, ça sera pas la dernière fois. C'est comme ça. Le Midrash, il est là justement pour nous rentrer dedans, pour nous faire réagir, il vient nous dire quelque chose qu'on voit pas du tout dans le texte. C'est ça la force des Chachamim de nous réveiller, comme on dit, d'illuminer quelque chose qu'on ne voyait pas du tout, et de poser des vrais problèmes, parce que le problème de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien du tout, bon, c'est aussi un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est que ce premier homme là qui est Adam, dont on nous dit ici pas grand-chose, hein. C'est très surprenant, c'est quand même c'est surprenant. On est moins choqué parce que quand il dit quelque chose sur Caïn, alors pour nous Caïn il est tellement méchant que il peut dire ce qu'il veut, ça ne va pas tellement nous choquer. Mais c'est énorme, c'est-à-dire ce Caïn qui est présenté ici comme quelqu'un qui c'est un mauvais sujet visiblement. Mais en tout cas, il a une philosophie, ce Caïn. L'arzir est à olam le tov avo. Il veut, y compris avec lui, il dit pas après moi le déluge. D'accord? Il veut ramener le monde au tov avo. Mais il a pas dit que ça se ferait uniquement après lui. Non, et après, on parle de la génération qui amène l'idolâtrie. Ceux qui sont permis de... Comme c'est le tournant de l'idolâtrie et la génération d'Enoch. Et puis, c'est ça, essentiellement. Après, il y a Dor HaMabul. Donc, c'est un raccourci très, 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 très raccourci. Seulement, chacun ici, d'après lui, d'après ce Rabbi Yehuda, chacun dit quelque chose, pose un nouveau problème, quelque chose de nouveau. Alors, on a vu maintenant Caïn. Et si on essaie de regarder... De Roche et Lénoche. Quoi? C'est bon. C'est l'obscurité de leurs actions. Pourquoi? Ce sont des gens qui pensent, ils connaissent le Créateur, mais ils pensent que ils peuvent lui échapper. Ils peuvent faire des choses qu'il ne verra pas. D'accord? Ils peuvent se conduire comme ils veulent, et Hachem ne le verra pas. Cette idée, on le trouve dans les Tehillim, etc. On trouve aussi ça chez Bilam. Bilam aussi, c'est pas n'importe qui. C'est une crapule, mais c'est pas n'importe qui. Bilam aussi, il pense qu'il va pouvoir rouler Hachem. D'accord? Il pense. Et à la limite, les Chachamim le disent à un autre moment, ils disent que même Adam Arishon aussi, il se dit quelque chose qui va pas. Pourquoi est-ce qu'Hachem me demande où je suis? D'accord? Il demande à Eka. Alors, la réponse d'Adam, on a l'impression que c'est une réponse de presque imbécile, n'est-ce pas? Il répond, je suis à 49 degrés de latitude nord, etc. Il lui dit où il est, effectivement la question de Hachem, c'était où est-ce que tu te trouves? Alors, nous aujourd'hui on rigole, mais néanmoins, qu'est-ce que le Chachamim veut, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? La Torah, elle le dit quand même clairement. Hachem lui pose la question à Eka, où est-ce que tu es? Et il répond comme si il allait donner ses coordonnées que, bon, Hachem, il n'a pas un GPS dans lequel tout le monde est répertorié. Il ne sait pas où est Adam. Il répond où il est. Ça va pas, non? Ça veut dire que c'est étrange de se demander pourquoi Hachem les a testés. Et ça veut dire que la première question qu'Hachem pose à Adam, c'est une question piège, mais un piège, c'est tellement grossier qu'on comprend même pas comment Adam a pu tomber dans ce piège-là. D'accord? Si on vous avait demandé, si Hachem vous demande où vous êtes, vous n'allez pas lui dire où vous êtes en ce moment, vous donnez vos coordonnées. Vous allez comprendre la question où vous êtes sur un autre niveau. Pas que Hachem ne sait pas, mais qu'il veut vous obliger à prendre conscience de « Regarde où tu en es déjà. Regarde où comment tu as dégringolé. » C'est ça qu'Hachem veut lui faire prendre conscience. C'est de ça qu'il veut lui faire prendre conscience. Et quand Hachem demande à Bilam qui sont ces gens qui sont là, Bilam aussi il fait comme si. Ah, et d'ailleurs, les Chachamim le mettent en avant. Il dit, Bilam s'est dit, ah, il ne sait pas. Il ne sait pas tout, donc. Donc j'ai une possibilité. Il ne veut pas que j'aille maudire, mais je pourrais me débrouiller quand même pour me faufiler et envoyer ma malédiction quand même. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Et qui disent à Balak, il lui dit, écoute, il dit tout de suite, hein, je pourrais rien dire de ce qu'il y a. Si Hachem ne met pas les paroles dans ma bouche, je pourrais rien en dire. Il a compris. Mais il a mis du temps pour comprendre. Il a fallu que son ânesse lui fasse la leçon, etc. Donc vous voyez, cette question-là qui nous paraît un peu folle, pareil, c'est quoi ça? Et c'est la première question qu'Hachem pose à un être humain. Au seul être humain qu'il a créé. Cette question, elle nous paraît grossière, non? On ne comprend pas ce qu'il lui veut. C'est-à-dire que le problème de l'homme, c'est tout de suite oublier qu'il y a un créateur. Oublier qu'il y a une créature et qu'il y a un créateur qui sait tout de lui. C'est tout de suite la première question. La première échappatoire. Et Caïn, lui, il veut, il dit, moi, je veux pas tout ce projet, non, je veux pas que ça bouge. Bon, j'ai un père, une mère qui se débrouille. On n'est pas, je veux pas du tout, il veut pas participer, en quelque sorte, à cette fabrication de générations au pluriel. Ensuite, il y a les gens qui continuent. S'imagine, ouais, Hachem ne sait pas, on va pouvoir faire ce qu'on veut dans l'idolâtrie. Et après, il y a la génération du déluge. C'est-à-dire que eux aussi, ils sont persuadés qu'il ne va rien leur arriver. Pendant toute une année, Noah va leur raconter qu'il va y avoir un déluge. Bon, il se moque de lui, quoi. Et quand il y a le déluge, ils vont aussi faire une théorie. C'est normal. Il y a un phénomène, tous les X années, il y a un déluge dans le monde. Vous avez vu, c'est un fait d'expérience que tous les X années, vous avez déjà vu ça une fois. Ils ont vu une seule fois. Ils en font un. D'accord? De cette une seule fois, ils ont regardé combien de temps après la création du monde ça a eu lieu. Ok, alors ça veut dire que c'est un cycle. Ça reviendra tous les X années, il y aura un déluge. C'est tout. Et donc c'est pas significatif. Donc on n'est pas obligé de changer quoi que ce soit dans notre conduite, ça ne veut rien dire. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a eu, on vient de lire ça, qu'est-ce qu'on a lu dans le Kokotai? Qu'est-ce qu'ils disent les Bnei Israël? Ah, c'est du hasard, tout ce qui arrive, il n'y a pas de message, c'est du hasard. Tout ce qui nous arrive, Hachem dit, je vais vous expliquer ce que c'est que d'être soumis au hasard, c'est-à-dire vous allez être dans le monde de l'absurde. Mais non, c'est du hasard. C'est du hasard. Il n'y a pas de message. Encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui considèrent que tout ce qui arrive est sans message. C'est parti c'est comme ça. C'est dû au hasard dans l'humanité, quoi. Mais surtout, ne pas lui donner du sens. On ne veut pas du tout reconnaître ici un quelconque sens à tout ce qui arrive. C'est la génération du Maboul. Et ils vont, eux, ils sont vraiment perdus complètement. Et puis après, ben, finalement, ça s'arrange pas. Personne n'a tiré de leçon véritable du déluge. Ça veut dire que ni Noah, ni ses fils, ni ses brunes n'ont pu donner des enseignements suffisants pour influencer. Pourtant, il y avait quand même quelqu'un. Il y a Shem, qui est un des fils de Noé. Et Shem, c'est quelqu'un, lui, il a tiré les conséquences. Mais ça n'a pas influencé les gens. Lui, il a tiré la conséquence, mais il s'est dit dans ce cas-là, moi, si j'ai été sauvé, c'est pour que je serve Hachem, c'est tout. Et donc, il va se couper de tout, il va s'enfermer dans sa tour d'ivoire, et il va servir Hachem. Jusqu'à ce que, de rencontrer Abraham, qui lui, sert Hachem, mais qui est complètement dans le monde, ça le bouleverse complètement, qu'il va se tromper, il va bénir Abraham avant de bénir Hachem. Voilà. À ce point-là, il est bouleversé. Complètement chamboulé. Comment c'est possible? On peut aussi servir Hachem sans être dans une tour d'ivoire. Mais c'est une yeshiva qu'il a ouvert. Lui et son petit-fils, et il y avait des gens qui allaient interroger. Rivka, elle est allée interroger Hachem. Et c'est très intéressant parce que dans le texte, c'est assez énorme, le texte dit qu'elle est allée interroger Hachem. Elle est allée chez Hachem. Chazal dit, où elle est allée interroger Hachem? Elle est allée à l'Yeshiva de Hachem Ever. D'accord? C'est Rivka Imenu. Ça veut dire, elle savait. Tu veux savoir qu'elle n'est pas allée interroger son beau-père. Elle aurait pu aller interroger Abraham. Elle aurait pu interroger Yitzhak lui-même. Non, elle va interroger Hachem. Interroger Hachem, c'est Shem Ever, c'est ceux qui l'aiment. C'est un limoud. Une yeshiva, on ne sait pas très bien le cursus de la yeshiva. J'ai essayé de me procurer le truc, je n'ai pas réussi. Mais n'empêche que Yaakov Avinu, avant d'aller chez là-bas, il va passer 14 ans dans cette yeshiva. Alors, pour que quelqu'un qui est l'enfant d'Yitzhak, qui est fils d'Abraham, d'accord, il a encore 14 ans à apprendre chez Shem Ever. C'est pour ça que ce serait bien de savoir. Certains disent qu'il a pris là-bas Torah Tagalout. D'accord, Abraham et Yitzhak, ils n'ont pas été confrontés vraiment au Galout. C'est pas toujours vrai, mais bon. Comme ça, certains expliquent. Et que comme lui, il allait partir en Galout, il avait besoin d'apprendre comment on vit la Torah en Galout. Quand on n'est pas en Eretz Israël, qu'on n'est pas dans un milieu porteur, on est un milieu de crapules, Laban, etc. C'est ça qu'il aurait appris. Bon, c'est pas un autre sujet maintenant. Mais en tout cas, il y avait quand même eux, mais ils n'ont pas eu d'impact. Shem, il n'a pas d'impact. Pourtant, quand même n'importe qui, quoi. C'est un antédiluvien, quelqu'un qui a été sauvé. C'est vrai qu'il n'a pas été sauvé par son propre mérite, mais par le mérite de leur père. Les trois fils, ils ont été sauvés parce qu'ils étaient réputés encore mineurs à ce moment-là. Donc, ils ont été sauvés par leur père, pas par leur mérite personnel. Mais bon, Shem, eh bien, c'est... Et bon, là, il n'en parle pas du tout. On fait un saut. Après, la lumière. Alors ça, il y a d'autres midrashim qui parlent de la lumière du monde et qui a été donnée à Abraham. Là, c'est Abraham qui est la lumière. On verra peut-être d'autres midrashim. Hachem a enlever la lumière des autres peuples et il l'a entièrement donné à Abraham. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Abraham? Encore une fois, c'est quelqu'un qui va éveiller et qui va faire briller, qui va illuminer. Mais ça sera vraiment stabilisé, structuré seulement avec Yaakov. Et Yaakov, c'est de nouveau une nouvelle entité, Yaakov et Esav. Ça va ensemble. À eux deux, ils forment cette entité. Une journée, par exemple. Et qui est l'entité Olamazé Olamaba. C'est eux, c'est Yaakov et Esav qui forment tout ça. Puis après, il y a le couronnement, un jour particulier, un jour autre, complètement différent des autres jours, a priori rien à voir avec... Et en plus... C'est un jour particulier parce que c'est quoi? C'est un jour qui a été obtenu, si on peut parler comme ça, par Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a obtenu le pardon d'Hachem pour le Vaudor. C'est Yom Kippour, c'est le pardon d'Hachem pour le Vaudor. Donc c'est pas un jour qui a été fabriqué d'emblée. C'est un jour particulier qui est la résultante de quoi? D'une faute d'abord. D'accord? Il y a d'abord eu une faute, d'abord eu l'obscurité de la faute, le Vaudor, et quelque chose qui était quasiment incontournable, bon, où Hachem a décidé, bon, c'est fini, c'est complètement raté aussi, y compris la descendance d'Abraham, nul, complètement nul. Et puis, Moshe Rabbeinu, il remonte la pente, il obtient le pardon, et il obtient ce jour du Yom Kippour. Donc finalement, le couronnement de cet enseignement de ce Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est que finalement, on a parlé d'un jour qui serait un jour extraordinaire, etc. Mais il y a un jour courant, qui est un jour dans ce monde-ci, et pas dans Olam Haba. Un jour dans ce monde-ci, tout à fait exceptionnel, qui est Yom Kippour. Alors, il n'a pas dit en quoi il est tellement exceptionnel. Mais bon, c'est un jour qui n'a pas de... Il est comparable à rien du tout. C'est un jour unique. C'est Yom Kippour. Et si Yom Kippour, c'est quand même la possibilité de se sauver. C'est-à-dire, après qu'il y ait eu le Maboul, après qu'il y ait eu etc. Tout s'est raté, en quelque sorte. Finalement, les hommes ont fabriqué un jour. Le jour de Yom Kippour. Ils ont obtenu qu'Hachem leur donne un jour supplémentaire, un jour complètement différent.
Mais alors, justement, là, comme il a amené avant que le Yom, c'était Olam Haba. Donc Yom Kippour, il le met dans Olam Hazeh.
C'est ce que je vous ai dit, c'est un jour qui appartient, qui est exceptionnel et qui néanmoins est dans Olam Hazeh. Alors ce qu'on peut dire, c'est, est-ce que c'est une espèce de, une goutte de Olam Haba dans Olam Hazeh? Je ne sais pas, est-ce que c'est du type Olam Haba? A priori non, c'est dans Olam Hazeh, c'est la possibilité d'un pardon. La possibilité que Moshe Rabbeinu a arraché à Hachem, qui certainement a bien voulu, et il a obtenu le pardon, et c'est devenu un jour de pardon avec la Shita exceptionnelle. Il y a une Shita qui dit Yom Kippour, c'est me rappeler même si on fait pas de Shuvah. Là, je vous rassure tout de suite, là, c'est pas comme ça. Il faut faire Shuvah. Mais il y a une Shita qui disait que Yom Kippour marche même si on fait pas de Shuvah. Voilà, on va s'arrêter là. Donc il y aura jeudi prochain pas de chiot.